Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique dominical de France Inter, de France Info, la télé sur le canal 27 de la TNT et du journal Le Monde. Jusqu'à 13h, celui qui va nous accompagner est l'un des poids lourds de la vie politique de notre pays. S'il a échoué à diriger la France sans lui, sans son soutien, peut-être qu'Emmanuel Macron n'aurait pas gagné l'élection présidentielle en 2017. C'est en tout cas lui qui a creusé depuis des années le sillon d'une ligne politique centriste, ni de gauche, ni de droite. Quel bilan tire-t-il du quinquennat d'Emmanuel Macron? Comment cet homme de compromis voit-il cette année présidentielle qui s'annonce très radicale s'engager? Et a-t-il tiré un trait sur toute ambition présidentielle? Ces questions, et bien d'autres, nous les posons à notre invité, maire de Pau, président du Modem, haut commissaire au plan, François Bayrou, et dans Questions politiques.
Questions politiques. Thomas Negaroff sur France Inter.
Bonjour François Bayrou.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Le chat dans la gorge est parti.
Est parti.
Vous êtes avec nous jusqu'à 13h et pour vous interroger avec moi, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour. Bonjour
Françoise Ressos du Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous.
Et Karine Bécard de la rédaction de France Inter. Et puis, bonjour Nathalie. Bonjour Karine, pardon.
Salut tout le monde.
Oh, je m'habitue. Hein. Et puis, tout à l'heure, vers 12h35, nouveauté de la saison, Alexandra Ben Saïd de France Inter nous rejoindra pour des questions d'écho. Alors, François Bayrou, ce dimanche est très politique, hyper politique. Anne Hidalgo se lance, Marine Le Pen se relance, Éric Zemmour nous dit qu'il hésite à se lancer. On reviendra sur tout ça, mais j'aimerais d'abord avec vous imaginer une scène. Un jeune arrive, ou une jeune femme, un jeune homme, et vous dit qu'il veut se lancer en politique. Qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous lui dites, attention, tu risques un jour d'être mis en examen, comme Agnès Buzyn, pour mise en danger de la vie d'autrui, c'est dangereux de faire de la politique? Vous lui dites, attention, c'est dangereux, parce que, comme la mairie de Pau cette semaine, des antipas risquent peut-être de tenter d'entrer dans ton bureau et peut-être de te causer des torts physiques. Ou est-ce que vous lui dites, attention, comme Benoît Hamon cette semaine, tu risques un jour de vouloir en sortir parce que tu te diras que tu ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que
absolument
vous lui dites
à ce jeune homme et cette jeune femme? Absolument rien de tout ça. Je lui dis que c'est à peu près la chose la plus intéressante, la plus, on dirait motivante, j'aime pas beaucoup ce mot, pas très français, la plus exaltante peut-être parfois, que de décider que les choses que les choix ne se feront pas sans vous. Mmh. Que vous allez prendre votre part du destin, autant qu'on puisse le deviner ou le façonner. Et donc je lui dis qu'il a bien raison et je l'encourage.
Mais c'est toujours aussi exaltant, sincèrement?
Oui, pour moi oui. Mais si c'était pas exaltant, je serais pas là. Si c'était pas intéressant, si c'était pas passionnant, et spécialement dans le moment que nous vivons, qui est probablement un des plus fascinants qu'on puisse rencontrer, tant se mêlent les problèmes planétaires, les grandes révolutions des sociétés et les problèmes spécifiquement français.
Alors, Nathalie Saint-Cricq.
Est-ce qu'on peut revenir sur le cas d'Agnès Buzyn, si tant est que ce soit un cas? Comment est-ce que vous considérez qu'elle a été traitée mal? Esprit de vengeance, esprit de... la volonté d'avoir un bouc émissaire? Est-ce que vous trouvez que c'est le fonctionnement logique des institutions?
Alors... À la deuxième question, la réponse est non. À la première question, non, je ne fais pas de cas personnalisé. Y a deux questions dans cette affaire. La première question, c'est est-ce que le gouvernement et Agnès Buzyn sont responsables de décisions qui ont porté tort aux Français, aux victimes? Est-ce qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient dans le moment où on était, où personne ne savait ce qui se passait, parce que y compris vous, enfin les journalistes, les médias, les spécialistes de la santé, les grands médecins, personne ne savait exactement ce qu'était la nature de cette épidémie, et on peut retrouver 1000 déclarations. On a tous conservé en tête la grippette, 1000 déclarations sur ce sujet en disant que et de grands spécialistes, en disant que c'était probablement saisonnier, que c'était probablement un virus qui allait s'affaiblir, qu'on n'était pas sûr qu'il était contagieux comme on croyait, peut-être beaucoup moins que d'autres virus précédents, et personne n'a fait le lien qui aurait dû être fait avec la très grande pandémie du XXe siècle, qui était la grippe espagnole, qui a fait 40 millions de morts.
Est-ce que c'est normal que la justice soit saisie?
Alors ça, c'est la deuxième question. Mais à la première question, est-ce que le gouvernement français et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ont fait ce qu'ils pouvaient assez tôt? La réponse, je crois, est oui. Il y a 1000 éléments qui permettent de voir que assez tôt, avant l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, avant ces prescriptions, le gouvernement français s'est inquiété. Moi, j'ai suivi particulièrement ça parce que moi, j'ai été alerté pas par l'OMS, mais par mes amis et collègues hommes politiques italiens. Parce que c'est en Italie que s'est déclenchée l'épidémie. C'est dans le nord de l'Italie, c'est-à-dire la partie, comme on dit, la plus développée, en tout cas la mieux médicalisée, que parce que des précautions n'ont pas été prises, l'épidémie a flambé, a fait des milliers de victimes. C'est pour ça que j'ai pu à Pau commencer la conquête des masques,
si j'ose dire. Mais est-ce que ça veut dire que vous estimez qu'au fond la mise en examen est injuste ?
Alors ça, c'est... On n'a pas traité la question que vous posiez vous-même à l'instant. Est-ce que le fonctionnement normal des institutions est que des décisions politiques qui ont été prises dans une ambiance de crise et de risque, qui n'ont pas été des malversations, des détournements, des faits précis à reprocher, est-ce que cela doit être tranché par des juges ? Et moi, je crois que ce mécanisme-là n'est pas le bon. Ce mécanisme-là est inquiétant pour la démocratie.
Donc il abîme la politique.
Est inquiétant pour la démocratie parce que la séparation des pouvoirs est une donnée absolument essentielle. Et là, parce que la justice n'est pas... Alors c'est une phrase qu'on dit souvent, mais je vais expliquer ce qu'elle veut dire. N'est pas un pouvoir en France, c'est une autorité. Okay. Pourquoi ? Parce que il y a des pays où les juges sont élus. C'est-à-dire, ils sont missionnés directement par les citoyens, en fonction de leur personnalité, intuitu personae, comme on dit. Et là, ils ont une assise. Ils sont un pouvoir. Ça n'est pas le cas en France. Les juges, disposent d'une autorité. Et, les mises en examen de cet ordre-là, me paraissent, moi, une dérive. Pourquoi ? Parce que ça signifie qu'on prive les citoyens, eux-mêmes, les électeurs que nous sommes tous, d'un pouvoir qui est le pouvoir de juger de l'action des politiques.
Là, ce que vous reprochez, c'est la présence de parlementaires dans la Cour de justice.
Alors, j'ai toujours été contre la Cour de justice de la République. Vous trouverez d'innombrables déclarations de moi. J'en avais même fait un chapitre du projet de la loi de moralisation de la politique que je défendais dans l'époque très, très restreinte où j'ai été garde des Sceaux. parce que je pense que ça n'est pas normal. Que ce soit des parlementaires transformés en juges qui jugent un exécutif qui dépend des parlementaires. Il y a là quelque chose d'un chien qui se mord la queue.
Est-ce que vous craignez au fond que la campagne présidentielle qui s'ouvre soit entre guillemets polluée par cette saisine et d'éventuelles autres mises en examen, puisque on parle aussi des cas possibles d'Olivier Véran ou d'Édouard Philippe? Est-ce que c'est ça que vous redoutez?
Alors,
aussi
si vous me demandez, est-ce que vous craignez que la campagne présidentielle qui va s'ouvrir soit faite d'innombrables pièges inattendus pour les uns, trop attendus pour les autres? Ma réponse est oui. Je pense que aucune campagne présidentielle n'est une campagne sobre, facile, transparente, fair play. Hélas, tout ça n'existe pas.
Et celle-ci particulièrement.
Pourquoi ? Parce que l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 a bouleversé un ordre qu'on croyait établi pour longtemps, qui était le règne conjoint des deux tours jumelles du grand parti de droite et du grand parti de gauche, auquel je me suis, comme vous savez, opposé toute ma vie politique. Et ça a créé en même temps, ça a fait naître en même temps des conduites, des concurrences, des affrontements qui sont presque plus idéologiques, qui sont personnelles, qui sont des batailles d'ego, comme vous écrivez. Je pense que tout ça ajoute à l'incertitude ambiante. On est dans un moment, j'imagine que nous allons en parler, qui est un moment de profond bouleversement dans les esprits.
On va y revenir.
France Inter. Question politique.
Alors François Bayrou, j'aimerais vous faire écouter une archive qui date du 13 mai 2017. Ça résonne avec ce que vous venez de dire sur les deux tours idéologiques qui structuraient la France. Emmanuel Macron vient d'être élu président de la République, vous l'avez soutenu. Vous avez un accord en vue des législatives qui approchent et vous donnez ici votre point de vue, c'est vous qui parlez, sur le positionnement politique que doit avoir le nouveau pouvoir.
Quel est le point d'équilibre politique de la majorité ? Et nous souhaitons, c'était le cadre de notre accord, qu'il y ait une majorité dont le point d'équilibre soit au centre et pas une majorité qui se décentrerait d'un côté ou de l'autre. Je trouve que on a pu faire entendre des arguments et une raison qui retrouvent les termes de l'alliance que nous avions passée et annoncée il y a déjà plusieurs mois.
Alors, François Bayrou, 5 ans plus tard...
C'était pas si mal, c'était juste.
Oui, 4 ans plus tard, même 4 ans et demi.
C'est pas mal que j'ai pas changé d'avis.
Sauf qu'aujourd'hui, le Premier ministre, si je ne me trompe pas, est de droite, le ministre de l'Économie également, le ministre de l'Intérieur aussi, et le ministre de l'Éducation nationale également. Vous n'avez pas l'impression, finalement, que le centre de gravité que vous évoquiez, que vous espériez au centre, c'est quand même assez clairement déplacé vers la droite ?
Alors... Il se trouve que je connais un peu le président de la République et que c'est lui la clé de voûte, la pièce maîtresse de tout ça, de notre architecture politique. Je sais, pour le voir réfléchir et agir, je sais que lui, son point d'équilibre est là.
Il s'est pas déporté sur la droite, c'est Emmanuel Macron, pour deux quinquennats.
Pas du tout. Vous me contesterez pas d'être un homme du centre. Quand il faut de l'autorité, il en faut. Quand il faut de la sécurité, il en faut. J'ai construit à Pau une police municipale qui est sérieuse. J'ai mis en place tous les éléments de sécurité, de vidéosurveillance dans la ville. Et mon opposition, qui n'avait pas beaucoup de succès, mais a dit ce sont des mesures de droite. Bon, je ne laisse pas perdre de vue ce qu'est l'intérêt majeur de chacun des citoyens. Ni l'ordre, ni la sécurité ne sont de droite. Ils sont le devoir qu'on doit à ceux dont on a la responsabilité. C'est ce qu'on doit. De ce point de vue-là, il suffit de lire ce qu'est la responsabilité d'un maire. Il a la responsabilité de la sécurité, de la salubrité. Et le président de la République, il a la responsabilité de cette préservation d'une société qui permet aux gens de vivre ensemble.
On a quand même l'impression dans les études d'opinion qu'il y a une droitisation de la société française. Je voulais vous demander, à l'occasion de la campagne électorale, quels seront, selon vous, les thèmes prédominants sur lesquels la bascule risque de se faire ? Comment vous voyez les choses ? Allons-y.
Ce que j'espère, c'est que nous allons aborder en priorité la grande question de l'éducation. Je pense que les coups de grisou que reçoit la société française, ils tiennent en partie à ce que nous avons depuis longtemps. Vu se dégrader peu à peu l'éducation nationale et les efforts que le gouvernement a fait sont notables.
Mais vous voyez à cause de quoi ? Des programmes, du fait que les profs
sont mal payés, des élèves,
du fait d'une dégradation de la société tout entière. Ouais. Comment vous analysez cette crise éducative ?
Où est le problème ?
J'ai écrit il y a 30 ans un livre qui s'appelait « La décennie des mal appris ». Dont j'étais très fier parce que j'ai eu le prix des lectrices de Elle et ça m'a rempli de joie autant qu'un
prix Goncourt.
Concours à cette époque-là. Et c'est un livre qui avait fait du bruit. C'était plusieurs années avant que je ne devienne ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un certain nombre de ruptures qui ont été voulues comme progressistes. J'en cite quelques-unes, les mathématiques modernes, par exemple. qui étaient sans doute des exercices intellectuels de mathématiciens de premier plan.
Mais Jean-Michel
Blanquer,
il a fait un virage très, à 180 degrés sur tout ce que vous
élaboré,
dénonciez. Il
très,
a suivi ce que vous disiez.
Oui, je pense que...
Pas assez peut-être, mais...
Je pense que, en effet, l'entrée dans le ministère de l'Éducation nationale de Jean-Michel Blanquer a été marquée par cette idée-là. Est-ce qu'on est arrivé au bout de cette idée? Très loin de là.
À l'époque, du dédoublement des classes de CP, c'est ça,
oui,
essentiellement.
Très bien, et puis pas seulement le retour aux fondamentaux, qui a peut-être pas été jusque au bout, mais que au bout de tout ce temps-là, dans tous les classements internationaux, l'école française se retrouve dernière ou à peu près de tous les classements internationaux, et sur ce qui est d'ordre mathématique, scientifique, et pour ce qui est de l'ordre de la maîtrise de la langue, pour moi, c'est un crève-cœur, et pour la nation, c'est une terrible crise.
Est-ce que pour vous, c'est un problème uniquement de contenu, ou bien c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, qui dit quelque chose sur notre rapport au savoir dans cette société française?
Je pense que votre deuxième analyse est juste. Il y a un problème de remise en cause de ce qui paraissait établi comme légitimité et comme autorité, de ce à quoi on pouvait adhérer, de ce à quoi on pouvait croire, et qui est assez largement remise en cause. On n'a pas le temps d'étudier pourquoi, mais ceci est vrai. Ça a entraîné un certain nombre de ruptures qui font que la transmission de génération en génération s'est trouvée mise en cause. Par exemple, les écoles normales étaient une institution formidable. Elles assuraient aux maîtres du premier degré, aux instituteurs, comme disait Péguy, aux hussards noirs de la République, elles leur assuraient une surface, une solidité, y compris en termes de savoir, qui était remarquable. Et aujourd'hui, de ce point de vue-là, on a été obligé de perdre une partie de ces repères.
Donc ça, c'est le grand chantier éducatif que vous
voulez
voir.
Pour moi, c'est
ce que vous dites,
vital.
Je souhaite.
Alors,
mais qu'est-ce que vous
grand chantier éducatif pour l'éducation initiale, l'éducation des enfants, et grand chantier éducatif pour l'éducation tout au cours de la vie. Parce que la formation et la reformation des jeunes et des adultes, c'est aussi un très très grand chantier. Et donc j'espère que ceci sera une grande priorité.
Ça, c'est votre rêve.
Deuxième priorité que j'espère et que je crois nécessaire, c'est la reconquête de la production. La reconquête industrielle, la reconquête agricole, dans les conditions nouvelles de la production, qui sont celles de la transition écologique, mais cependant avec la nécessité de refaire de la France un pays de production, simplement pour soutenir le contrat social qui est le nôtre, si on n'avait que cet objectif-là. Et vous reconnaîtrez là les deux verbes sous lesquels j'ai fait plusieurs campagnes présidentielles, qui étaient instruire et produire, et je pense que ces deux nécessités se sont aujourd'hui imposées comme incontournables.
On sent en tout cas que vous avez envie de peser, on verra comment dans le débat présidentiel. On a l'impression de quasiment d'entendre un candidat, on y reviendra évidemment sur cette question-là, qui peut-être vous fait sourire, je vous vois sourire déjà. L'autre question quand même, c'est... Françoise va la poser.
En fait, c'est très lié à ce que vous dites, c'est-à-dire l'interrogation qu'on a aujourd'hui, c'est au fond, qu'est-ce que c'est que cette force centrale, ou en tout cas, quelle est l'idéologie de cette force centrale que vous essayez d'installer maintenant dans la durée, puisque vous avez le projet de création d'un grand parti du centre. On a cru à un moment que c'était très centriste. Là, quand on regarde instruire, produire, c'est pas exactement ça. Donc, comment vous définissez au fond le projet que vous voudriez porter, et pourquoi tout d'un coup vous vous êtes rallié à cette idée de grand parti alors que vous étiez très soucieux de préserver l'autonomie du MoDem?
Vous êtes assez une observatrice pour savoir que tout l'effort de ma vie politique a été de rassembler le centre pour en faire une force majeure de gouvernement. parce que je pense que c'est le seul point d'équilibre qui permettra à la société française de trouver son élan pour l'avenir.
Alors donc vous les centristes dites... ne sont plus cette brouette remplie de grenouilles, comme vous aviez dit, je ne sais plus, en 2011 ou 12.
J'aime c'est, bien que peut, vous citiez mes œuvres complètes.
On peut les rassembler, ça y est, les centristes, ça marche, c'est possible de faire un grand parti de centristes.
Je pense que c'est la tentation perpétuelle de ce grand courant-là, et aujourd'hui de tous les courants français, que tout le monde saute du bateau pour aller construire sa petite barque. Hein, et alors ça s'est fait au centre comme un des beaux-arts. Pour moi, c'est une des explications du temps qu'il a fallu et de la chance qu'il a fallu pour corriger ça et reconstruire un parti de gouvernement. On y viendra dans une minute. Mais je réponds à Françoise Fressoz. Est-ce qu'on peut définir en un mot ce qu'est l'idéologie, la doctrine, la philosophie de cette, la vision du monde de ce courant politique-là? La réponse est, pour moi, est évidente. Oui, la doctrine et la philosophie de cette famille politique, c'est l'humanisme au sens large du terme.
Alors, on a quand même l'impression, on entend maison commune chez Monsieur Le Cornu, on entend grand parti, comme disait Françoise, on entend plein de mots, en appelant des vœux, une espèce de coquille. Alors, on se demande si la coquille sera simplement une coquille de soutien ou d'une coquille pour supporters ou fans d'Emmanuel Macron, ou si on pensera dans cette coquille. Et pour
très,
penser,
très
faut peut-être
question.
S'y mettre un peu à l'avance. Et là, on a l'impression qu'en 8 mois pour définir un corpus, alors, il va falloir vraiment se dépêcher de savoir ce qu'on met dans la coquille.
Il y a quelque chose d'absolument juste dans ce que vous avez dit, et il y a quelque chose de, je crains, faux. Un peu faux.
Voilà. Donc, alors, on va expliciter. Donc,
le bilan.
Donc, ce qui est absolument juste pour moi, c'est que ça n'est pas un parti pour un homme. Je ne crois pas au parti pour un homme. J'ai jamais cru. Je crois aux tendances profondes de la société française, de la démocratie dans le monde. Et je ne crois pas au parti fait pour une seule personne. Ils doivent se rattacher un jour ou l'autre à un courant fondamental ou retrouver le courant fondamental qui est le leur, ce qui, je crois, peut tout à fait se faire. Ça, c'est le premier point. C'est donc la construction pour laquelle je plaide, c'est une organisation politique pour des générations.
Ah oui, donc c'est pas pour simplement 2022. C'est...
Non, pas du tout. Ah, le d'accord. Parti socialiste, ça a été créé en 71, et oh, c'est non. Un peu au goût... Pas du tout. Il y a un homme qui a réussi à en prendre le contrôle.
Ah oui, quand même.
C'est une autre histoire.
Ça se passe toujours
mais
comme
pas
ça.
Du tout. Et donc, il a réussi à en prendre le contrôle à partir d'une toute petite structure qui était la Convention des institutions républicaines, mais il demeure que...
Vous voulez une grande fédération d'un certain nombre de partis ?
Non, je n'emploie pas le mot fédération, parce que j'ai vécu tous les charmes,
alors, mouvement, on va dire,
qui
c'est
sont
joli.
Très très peu, et tous les inconvénients des fédérations. Quel est l'enjeu ?
Ouais.
L'enjeu organisationnel, d'abord, c'est que on réussisse à écarter les ferments de division perpétuelle des partis politiques. Parce que la grande question qui se pose, c'est l'énergie dont vous disposez. Est-ce que vous l'utilisez pour conquérir à l'extérieur ou pour vous battre à l'intérieur ? Est-ce que c'est la guerre civile ou est-ce que c'est un mouvement d'aller conquérir, convaincre et entraîner à l'extérieur ? Et pour ça... Je m'estime le plus grand expert mondial
de
la lutte contre la division dans les partis politiques. J'ai été secrétaire général de l'UDF, président de l'UDF, je vous assure, je connais tout très très, très bien. Je pense qu'on peut le faire. Et je pense que c'est le moment de le faire. On ne pouvait pas le faire avant, on ne pourra pas le faire après. Donc, je plaide pour cela.
Mais du coup, ça veut dire que vous êtes en train d'essayer de bâtir un mouvement, on va l'appeler comme ça, majoritaire. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans l'optique de créer des coalitions, vous n'êtes plus sur l'idée de proportionnelle, alors. La proportionnelle, c'est fini.
Ah non, pas du tout.
Alors, comment ça marche?
Est-ce qu'on peut nuancer ces affirmations? Je n'ai jamais été pour les coalitions. Je crois n'avoir jamais employé ce mot. Parce que les coalitions, c'est la 4ème République.
C'est aussi l'Allemagne. C'est aussi l'Allemagne où ça marche très bien.
C'est aussi l'Allemagne. Vous dites que ça marche très bien. On verra dans un mois.
Non, mais ça verra le marché
dans un mois. Mais ça existe de fait quand on veut de la proportionnelle.
Non, pas du tout. Ah bon. Alors, je vais me référer aux grands auteurs. Hein. Au seul qui compte sur le sujet, c'est le général de Gaulle. Lorsque de Gaulle définit dans le grand discours institutionnel de sa vie, donc qu'il n'a jamais quitté, qui s'appelle le discours de Bayeux. En 1946, lorsqu'il définit ce que doivent être les institutions françaises, je vais le citer, je crois, à peu près exactement, voilà ce qu'il dit. Il dit, d'ailleurs c'est formidable, parce qu'il y a un enregistrement extraordinaire de cet instant-là, parce que il y a la grande voix du général de Gaulle qui parle, et il y a un petit oiseau qui fait le contrepoint par des trilles à la voix du général de Gaulle sur l'enregistrement, c'est formidable. Que dit-il le général de Gaulle ? Il dit « Nous allons enlever l'exécutif aux manœuvres parlementaires. Le gouvernement sera désigné par le président de la République en tenant compte, je cite entre guillemets, en tenant compte des nuances de l'Assemblée nationale. » Ça veut dire que les coalitions, c'est quoi ? C'est des partis qui s'entendent, et il faut qu'ils s'entendent avant que le gouvernement existe. Et donc, le gouvernement est soutenu comme la corde soutient le pendu, vieille formule de la 4e République. La défection d'un zozo ultime permet de faire tomber le gouvernement. C'est exactement le contraire, la 5e République. Et c'est pourquoi on a bien eu raison de mettre le calendrier à l'endroit, ce que nous avons fait il y a quelques années. C'est le président de la République qui est élu. C'est à lui que les Français délèguent la magistrature de la vision et à qui ils font confiance pour les institutions. Et c'est un choix d'homme, de personne, avec tout ce qu'il porte en lui de projet. Mais c'est un choix dédié à une femme ou à un homme. Et ensuite, ce président de la République désigne un gouvernement. Il a en face de lui une Assemblée nationale, et il est bon que l'Assemblée nationale, dans ma vision, soit le plus représentative possible du pays. Donc, et après, vous constituez un gouvernement en tenant compte des orientations que le pays a transmises. Voilà, c'est
un président
aussi
de la République
simple que ça.
Au-dessus des partis, qui a une vision. Est-ce que c'était le cas d'Emmanuel Macron? Et que pense-t-il de cette proposition que vous faites ici?
Alors là, vous savez, vous êtes cruel, parce que vous me mettez en face d'un des problèmes les plus importants de ma vie. Je suis victime d'une pathologie.
Oui, on la connaît.
Pathologique, mais presque. Et donc, je suis victime d'une pathologie.
Vous oubliez tout ce qu'il vous dit.
Je suis amnésique dès qu'il s'agit de mes conversations avec le président de la République.
Ce que vous pouvez peut-être nous dire, c'est à quelle date va émerger ce mouvement ? Quel sera son nom ?
Plus tôt que plus tard.
C'est-à-dire avant la fin de l'année ?
Les énigmes.
Une réponse de...
Je pense qu'il faut aller vite, autrement ça se fera pas.
D'accord.
Vous voyez bien, si on attend l'élection présidentielle après...
Quel pourcentage de chance vous lui donnez ?
Oula. Un peu plus de 50-50.
Quand j'entends...
Ah, pas plus que ça ?
François Bayrou, vous avez dit le mot humaniste qui m'a beaucoup intéressé. Oui. Vous, l'amoureux de François Ier, je pense que ça résonne aussi dans votre culture personnelle. Éric Piolle nous a dit qu'il voulait faire un arc humaniste aussi. C'est quoi la différence ? Il y a deux humanismes qui s'affrontent ?
Ça te fait sourire.
Je connais la cause de cette phrase, mais je ne la commenterai pas.
Mais votre arc à vous, il va d'où à où ? En clair, quand même, pour qu'on comprenne. Il va d'Edouard Philippe. Il va d'Edouard Philippe à des gens de gauche qui seraient un peu déçus par le Parti socialiste.
Lorsque l'élection présidentielle est acquise, à ce moment-là, on constitue la majorité et le gouvernement la plus large possible. Mais on ne perd pas de vue le socle qui a permis la réalisation de cette majorité. Vous comprenez ? Il y a combien de courants politiques en France ? Allez, 5 ou 6. L'extrême droite, la droite de gouvernement, le centre... les écologistes, la gauche de gouvernement et l'extrême gauche. Ah, c'est ça, à peu près. ces six courants politiques ont leur légitimité. Et simplement, on peut parfaitement réunir des gens différents pour gouverner. Mais l'organisation politique qui permet de s'adresser au pays, de mûrir des projets, comme vous le dites, de faire sortir des personnalités nouvelles, de former, de lancer dans la bataille, tout ça ne peut se faire que sur des pôles assez larges et clairement identifiés. Vous savez ce qui m'a mis en colère toute ma vie, c'est la formule « la droite et le centre », comme si c'était la même chose. Et vous vous souvenez que je suis allé à Toulouse le jour de la formation ou de la préformation de l'UMP pour dire, non, ça s'est pas bien passé, mais c'était très bien, c'était très juste pour dire, vous dites que nous pensons tous la même chose, nous, c'est-à-dire la droite et le centre, que c'est la même chose. Et moi, je prétends que ce sont deux courants différents qui ont leur philosophie, qui ont leur vision de la société et de la démocratie en particulier. Et donc, les uns sont plus nationalistes, les autres sont plus européens, d'autres, les uns sont plus sociaux, d'autres sont plus économistes, libéraux.
Mais on arrive quand même à dégager des idées communes pour avancer.
Mais bien sûr, mais regardez, il n'y a pas eu un seul affrontement d'idées au sein de ce socle majoritaire pendant les 5 années.
Il y a eu des tensions sur l'immigration, sur la sécurité. Il y a eu des tensions.
Au sein du bloc majoritaire?
Ah oui.
Moi, j'en ai pas vu.
France Inter. Question politique. Thomas Negaroff.
Si Alexandre Ben Saïd s'assoit à côté de moi, c'est qu'on va ouvrir une petite page d'économie avec vous, François Bayrou. Les questions sont donc posées par Alexandra Ben Saïd.
Bonjour François Bayrou.
Bonjour.
Alors des questions d'économie et de social, si vous permettez. J'aimerais bien qu'on refasse encore une petite séquence quand même sur le bilan d'Emmanuel Macron. Il y a 5 ans exactement, c'était en 2016, vous étiez invité à cette même table sur France Inter, question politique. Et vous disiez ne pas vous reconnaître dans le projet de société d'Emmanuel Macron, infiniment proche, je vous cite, de celui de Nicolas Sarkozy en 2007 avec des inégalités croissantes. Alors nous sommes en 2021, on peut quand même faire un petit peu le départage entre les mesures fiscales, sociales. Emmanuel Macron a-t-il été le président des riches?
Vous oubliez de remettre ça dans le contexte de l'époque. C'était un moment d'agacement entre Emmanuel Macron qui surgissait et moi qui cultivais le champ sur lequel il allait plus tard pouvoir moissonner. C'est ça la vérité. Donc
président des riches. Mais maintenant, je comprends sur le contexte. Voilà. Mais si on fait le bilan.
Absolument pas. Absolument pas. J'ai pas été d'accord, comme vous savez, tout à fait d'accord sur la manière dont la réforme de l'ISF s'est faite. J'étais pour une réforme légèrement décalée, assez différente symboliquement, qui était de dire on va sortir de l'ISF l'investissement productif. Puis après ça a été beaucoup plus large que ça et à mon sens ça a entraîné une incompréhension. Sur ce point, et donc je crois encore aujourd'hui que j'avais raison, parce que ça aurait été un puissant incitatif à l'investissement productif. Mais bon, c'est derrière nous.
Mais entre l'ISF, les APL, tout ce qui a été mesure fiscale sur le capital, la flat tax, est-ce que vous trouvez que ça a été équilibré?
Je pense que ça a été équilibré en supprimant la taxe d'habitation.
Ça va être fait aussi pour les plus riches.
Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente pour un budget,
18
pour
milliards.
Pour un salarié moyen, de gains directs. Ça a été équilibré parce qu'on a augmenté les bas salaires comme ça n'avait jamais été fait, de plus de 100 euros par
mois. Ça c'est la prime d'activité, mais c'est parce que les gilets jaunes sont allés dans la rue.
Vous pouvez dire ce sont des faits. Et pour moi, ça a en effet créé un équilibre. Cet équilibre doit être amélioré, précisé, tout ça. Ça va être l'objet de la campagne présidentielle si le président de la République décide de se représenter. Mais je n'ai aucun doute que c'est exactement cet équilibre qu'il faut rechercher.
Alors sur le modèle social, les retraites, la réforme, le président qui dit ben, on fera ça finalement quand on tombera le masque. Comment est-ce que vous comprenez ? Est-ce que ça veut dire que c'est enterré d'ici avril ? Est-ce que vous êtes soulagé, François Bayrou ?
Est-ce qu'on peut se passer d'une réforme des retraites ? Non. Parce que, simplement, si on décidait de ne pas aller au bout de d'un projet de cet ordre, de ce projet ou d'un autre, ça voudrait dire que les pensions de retraite seront menacées pour ceux qui les touchent. C'est-à-dire que on se trouvera à un moment où on ne pourra plus garantir le paiement des retraites. Et est-ce qu'on peut accepter ça dans un pays comme le nôtre ? Non.
Mais là, ma question, c'est sur le calendrier.
Vous êtes pour
la réforme des retraites, mais est-ce que vous êtes satisfait qu'on ne la fasse pas avant avril ? Et est-ce que vous avez compris ?
Je fais très attention aux déclarations. Ce qui a été dit, et à juste titre dit, c'est qu'on ne pouvait pas faire une réforme comme ça, alors qu'on est en plein épisode de pandémie. Et même le patronat est venu dire qu'il préférait qu'on rétablisse les choses plutôt que de créer un nouveau trouble. Mais la réforme des retraites, elle est indispensable, et elle devra avoir lieu. Et toute personne qui prétend que non est, à mon avis, quelqu'un qui n'est pas fidèle à son devoir, à sa mission.
Allez, des questions pour le haut-commissaire au plan que vous êtes depuis septembre 2020. Le plan qui est en quelque sorte ressuscité avec vous. Et il faut rappeler à tous ceux qui ne l'ont pas compris que le plan, c'est ce qui nous a fait passer de la misère de l'après-guerre aux 30 glorieuses. C'était avant la mondialisation. Alors, une année d'existence, le haut-commissariat au plan a produit 6 notes. Est-ce que vous voyez votre influence dans des décisions ?
Oui.
Lesquelles ?
Ben, je pense que la note que nous avons produite sur la production d'électricité a changé en partie, je m'en glorifie pas, le climat sur la question du nucléaire en France. Quand nous avons produit cette note, qui dit les choses de manière extrêmement claire, je rappelle, on ne peut pas passer ou on ne peut pas tenir les engagements que la France a pris sur la décarbonation de notre énergie, sans aller à la fois vers du durable et du nucléaire. Pourquoi ? Parce que le solaire, l'éolien, en dehors de l'hydroélectricité, qui sont les énergies renouvelables que nous avons, elles sont intermittentes. On produit, avec des éoliennes, on produit de l'électricité quand il y a du vent, et avec le photovoltaïque, on produit de l'électricité quand il y a du soleil.
Donc
il faut
une
production d'énergie qui seule permet la transition vers le renouvelable. Et je pense que de ce point de vue-là, tout le monde admet aujourd'hui qu'on va devoir prendre dans un délai rapide des décisions solide sur de nouvelles unités de production nucléaire.
Vous avez aussi produit une note sur la dette. Alors justement, en 2007, vous étiez le héros de la lutte contre la dette. En 2007, elle était deux fois moins lourde qu'aujourd'hui, hein, puisqu'aujourd'hui elle est à 116%. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est encore l'angle mort de ce début de campagne ? On ne parle pas de ce qui va se passer avec cette dette. Alors, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, François Bayrou. Que doit-on faire dans le prochain quinquennat ? Est-ce qu'on doit la faire baisser, cette dette ? Est-ce qu'on doit la laisser prospérer ? Ou est-ce qu'on doit ne rien faire du tout ?
Non.
Ça vous fait rire.
Il y a deux dettes. Il y a la dette perdue et il y a la dette constructive. La dette qui permet de construire. Quand vous empruntez, je sais pas quoi, pour acheter à perpétuité des téléphones portables ou des jeux vidéo ou des je ne sais pas, si c'est en empruntant que vous le faites, c'est une dette qui ne portera pas ses fruits. Si vous empruntez pour construire une maison, c'est une bonne dette.
Alors c'est comme le cholestérol. Mais est-ce qu'il va falloir je vais préciser ma question. Est-ce que vous considérez
non, vous avez
que
compris
faire...
ce que je veux dire
absolument
parce que
mais est-ce qu'il va falloir faire baisser vous savez bien on a une dette. Est-ce qu'il faut quand même essayer de diminuer cette dette et par quel levier ? C'est ça ma question.
On doit traiter la question de la dette par l'augmentation de la production en France. Car la dette, comme vous savez, c'est un rapport entre ce qu'on emprunte et le produit du pays, le produit intérieur du pays. Et on fait baisser la dette en augmentant la production. C'est par la croissance qu'on y arrivera.
Donc,
alors ça doit être une croissance
pas avec
vertueuse.
Des hausses d'impôts, pas avec des baisses de dépenses publiques, c'est ça que vous êtes en train de dire ?
Oui, je pense que l'essentiel doit être fait par la croissance. C'est ce que, excusez-moi, vous êtes économiste, c'est ce que les Allemands ont fait. La part de la dette a baissé en Allemagne parce qu'ils ont augmenté, ils ont fait grandir l'activité du pays.
France Inter. Hashtag question Paul.
François Bayrou, pour engager la fin de l'émission, j'ai une question que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure et que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous avez personnellement abandonné toute ambition personnelle? Je vous ai souvent entendu parler de Joe Biden comme d'un possible modèle pour
non,
vous.
Non. Je... Mélangeons pas tout.
Ah, c'est vous qui en avez parlé. Hein. Alors, c'est pas moi qui en ai parlé.
Moi, je vais vous dire ce que je pense. C'est très simple. Est-ce que j'ai jamais une seule seconde renoncé à la perspective ou au devoir, à l'obligation, quand on est un homme, un citoyen engagé d'exercer des responsabilités? Jamais. Pas une seule seconde. Pas plus aujourd'hui qu'hier. Les gens qui passent leur temps à dire « Ah non, c'est fini, moi, je suis... » J'appartiens pas à cette catégorie-là. Je regarde l'avenir avec gourmandise.
Donc quel rôle du coup j'aime pendant cette présidentielle ?
J'aime les défis, j'aime les relever, et il m'arrive assez souvent de penser que, au fond, j'ai vu juste plutôt que bien d'autres sur beaucoup de sujets. On parlait de la dette à l'instant. Donc, est-ce que j'ai renoncé à quoi que ce soit? Jamais. Simplement, quand j'ai quelqu'un que j'estime dans la responsabilité majeure du pays, dont je crois qu'il a des qualités qu'on ne rencontre pas souvent, on va dire, dans la vie, de solidité, de liberté, d'audace, qu'il n'a pas peur et qu'il pense le plus souvent juste, alors je dis, je suis content de l'aider. Est-ce que j'ai renoncé à quoi que ce soit? Jamais. Comprenez le... c'est assez simple.
Quand vous le décrivez, donc on voit que vous pensez à Emmanuel Macron, oui. Tressez ses lauriers.
C'était lui.
Et il y a un petit souci.
Tresse pas de laurier, je dis juste ce que je pense.
Voilà. Il a une cote de popularité importante, le président de la République, notamment parce qu'on lui sait gré d'avoir géré plutôt bien, en tout cas, l'actuel rebondissement des crises sanitaires. En intention de vote, ça ne se traduit pas totalement en pourcentage de la popularité. Tout le monde dit il y aura un duel au bout du compte Macron-Le Pen. Est-ce qu'il y a un grain de sable dans ce scénario qui pourrait faire déraper les choses?
Françoise Fressoze, pas un grain de sable, 1000 grains de sable.
Alors, dites-nous un peu
mille
comment
parpaings.
Comment vous voyez le paysage
mille,
politique
lequel est dans le pire
qui vont 1000. C'est ça une campagne présidentielle. C'est le moment le plus dramatique, au sens dramaturgie du terme, qu'on ait
beaucoup de choses se soldent à ce moment-là, effectivement.
Oui, tout se décide à ce moment. Et ça ne se décide pas arithmétiquement. Ça se décide dynamiquement. Ça se décide par quelque chose qui est d'un regard qui est plus profond que le reste. Vous savez bien, vous faites un métier, et vous savez, une des grandes lois de ce métier, elle est parfois dure, c'est que le non-verbal, l'apparence, le visage, les sentiments qu'on lit dans vos traits, la couleur de votre cravate, le non-verbal pèse 3 fois plus au moins que le verbal.
Alors, on va quand même continuer à parler.
Alors, les hommes politiques, ils passent leur temps à peaufiner des formules. Donc, vous passez votre temps à écrire. Alors, mais ce qu'on lit, c'est ce.
Alors,
ça n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous êtes.
D'accord. Nathalie, alors, justement, un peu verbal quand même. On a un peu l'impression qu'il y a une certaine forme de confiance quand même assez relative du côté de l'Élysée. On voit à la gauche, il y a 74 candidats, chacun est à 10, personne ne submerge. Deuxième plaisir, voir ce qui se passe chez les Républicains. Il y a Éric Zemmour qui vient d'arriver, on en parlera peut-être. Donc, dans votre non-verbal, qu'est-ce que vous redoutez le plus? Puisque le verbal, ça a l'air d'être la division. Est-ce que c'est Emmanuel Macron lui-même qui est son pire ennemi dans son comportement, avec un certain nombre de phrases qu'il a pu prononcer? Est-ce que vous pensez, certains ont parlé de haine ou de défiance, est-ce que vous faites le même diagnostic? Est-ce qu'il est son pire ennemi? D'un point de vue non-verbal et comportemental.
Alors, qu'il y ait chez un certain nombre, certains de Français, un sentiment d'hostilité personnelle au président de la République, ça c'est vrai.
Ça vient de quoi ?
C'est très difficile à expliquer. Il le sait bien. Moi, je n'ai aucune mémoire, mais je sais qu'il lui arrive d'en parler avec des amis. Il sait très très bien ça. Quand on risque des explications, il y a des gens qui disent c'est parce qu'il a réussi trop tôt.
Et vous pensez que ça peut être l'explication ?
J'en sais rien. J'ai du mal parce que l'homme que je vois, spécialement quand il parle de plein pied avec ceux qui n'ont pas le pouvoir, avec ceux qui ne sont pas les puissants, avec ceux qui sont des concitoyens et des concitoyens avec des problèmes. Tout le grand débat.
Les obscurs et les sans grade.
Les obscurs et les sans grade. Tout le grand débat. Ce qu'on voit, c'est que c'est une relation vraie. Il écoute, il entend. Ce qu'il dit, il le sait, il le pense. Pas seulement les dossiers, mais la réalité humaine qu'il y a derrière tout ça. Je pense que c'est vrai. Ça n'est pas perçu. Est-ce que ça peut l'être ? Je crois que oui.
Karine Bécart.
Mais vous-même, depuis le début de l'émission, vous avez utilisé ces mots, par exemple, des coups de grisou, des remises en cause, des ruptures. C'est tout le champ lexical d'une société fracturée. Et on perçoit effectivement aujourd'hui cette société française fracturée. Ma question, c'est cette colère des Français, qui va réussir à la capter ? Est-ce qu'Emmanuel Macron va être le candidat des gens qui vont bien ? Ou est-ce qu'il sera aussi le candidat et est-ce qu'il réussira à être aussi le candidat des Français qui vont mal ou des Français qui sont en colère ?
Et j'ajoute, est-ce que Emmanuel Macron est aussi un peu responsable de la situation actuelle de fracturation ?
D'abord, c'est toutes les sociétés de la planète qui sont fracturées aujourd'hui comme ça. Si vous regardez les États-Unis, vous avez devant les yeux une société explosée. Et explosée sur des thèmes qui viennent de plusieurs siècles.
Donc c'est pas la faute d'Emmanuel Macron pour répondre à la question ?
Donc c'est toutes les sociétés. Ça prend un tour particulier en France parce qu'il y a eu la rencontre des deux éléments explosifs, les gilets jaunes et l'épidémie. Et moi, je fais extrêmement attention. Je regarde ça, j'essaie de comprendre vraiment ce qui se passe. On a des manifestations à Pau, comme vous savez, Pau est un des hauts lieux. Et je connais beaucoup de ceux qui manifestent naturellement. Et je ne les méprise pas. Il se trouve que j'essaie de comprendre. Je suis pas d'accord avec eux. Je n'aime pas quand on a des affrontements brutaux, durs, enflammés. J'aime pas ça. Mais j'écoute ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au fond, il y a 100 ans, on avait une société qui était assez ordonnée autour d'un certain nombre de légitimités. Il y avait la religion. C'est la première qui a été balayée, ou en tout cas qui a dû se trouver mise en cause. Il y avait la politique. Alors ça, les politiques ont été eux aussi flingués assez gravement.
Le dégagisme ?
Oui. Il y avait les médias. Vous étiez écouté, populaire, respecté.
On n'a pas été longtemps.
C'est fini.
Et c'est fini.
Le regret que j'entends.
Mais c'est très important. Et il y avait un domaine qui était préservé pour tout le monde, c'était la médecine. C'était... Moi, quand je voulais trouver un candidat qui inspire confiance dans une circonscription où j'en avais pas, je disais toujours « regardez les médecins ». Et aujourd'hui, ça s'est fini parce que sur vos écrans, les Français ont vu les médecins s'étriper entre eux sur des questions scientifiques. Et ça a été, je crois, un profond élément de doute et d'instabilité. Et donc... La remise en cause de toutes ces légitimités-là, l'une après l'autre, indique un monde à reconstruire. À reconstruire sur cette question-là. Qu'est-ce qui est légitime ? Et ça va être intéressant, parce qu'une élection présidentielle, la dernière fois, ils ont dit il a été élu par surprise.
Oui.
Il ne sera plus élu par surprise.
François Bayrou, justement, vous dites que là, on est en déconstruction, il faut reconstruire. Quel est le... Peut-être, ce n'est pas le slogan, mais quel est le bon positionnement pour répondre à une France dans l'état dans lequel vous la décrivez. Est-ce que c'est l'efficacité ? Est-ce que c'est la reconnaissance que vous êtes, que vous comptez, c'est-à-dire le besoin de reconnaissance qu'expriment aussi beaucoup de Français ? Qu'est-ce qui va compter ?
Un, Le président de la République, c'est par nature un rassembleur. C'est quelqu'un qui a pour devoir de faire vivre ensemble des gens qui, si vous leur lâchez la bride sur le cou, se haïssent et s'entre-déchirent. C'est un rassembleur. Deux, c'est quelqu'un qui croit à quelque chose. C'est pas un opportuniste. Et je pense que les choses ont assez largement basculé pour le président de la République dans le discours du 12 juillet. Parce que le discours du 12 juillet,
sur la crise sanitaire,
il a pris à bras le corps la réalité, il a pris des décisions difficiles à prendre, contestées, et on a senti qu'il s'y tiendrait. Et donc ça compte énormément. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui se fait une idée précise du cap qu'on doit suivre. Et ce cap-là est aussi un cap rassembleur.
Il doit se dire vite les choses, parce que les présidents sortants, quelquefois il y en a qui sortent avant la fin, comme François Hollande, il y en a d'autres qui sortent tard pour se représenter, comme Nicolas Sarkozy, qui le regrette après. Est-ce que vous considérez qu'il a le temps ou qu'il ne faut pas trop traîner ?
D'abord, c'est sa décision à lui.
Ah oui.
Hein, il va. Et puis il y a un certain nombre d'événements. Le 1er janvier, il devient président au nom de la France de l'Union européenne. Donc évidemment, c'est pas si simple. C'est à lui de voir le calendrier. Mais je.
Votre conseil.
M'intéresse plus encore le fait que. Je ne le sens pas dans la définition d'une campagne électorale, je le sens dans l'attention à ce qui se passe de profond. Voyez, Marseille. Je suis absolument persuadé que la visite à Marseille n'aurait pas été la même en 3 heures ou en 3 jours. Pas pareil. Je dis pas qu'on comprend tout en 3 jours. Mais il a dit un certain nombre de choses, parfois dures, sur...
Aux élus, aux syndicats.
Qui, à mon sens, sont fondatrices de quelque chose. Alors après, est-ce que sa décision, le calendrier, tout ça, je ne sais pas.
On a commencé l'émission, je vous ai posé la question, est-ce que vous croyez un peu encore à la politique ? On voit que vous y croyez encore beaucoup, et vous croyez surtout en Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi ?
Non.
Laissez-moi terminer. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur aussi que dans ce climat de radicalité, une voix qui se veut modérée, qui refuse peut-être d'aller vers ces champs-là, soit moins audible que celle d'un Éric Zemmour, par exemple, ou d'autres formes de radicalité qu'on peut lire et entendre par-ci, par-là.
Alors, je suis pas sûr que le mot modéré corresponde exactement à ce que je suis. Je suis engagé, enthousiaste, et j'aime bien les ponts d'Arcole quand il faut aller les prendre.
Mais sur le phénomène...
Je pense que les gens méritent d'être respectés. C'est très, très... Y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Vous rappeliez tout à l'heure des déclarations méchantes que j'avais faites sur Macron surgissant. J'ai commencé à l'écouter et à me dire que peut-être il y avait quelque chose à faire avec lui quand il a commencé à parler de bienveillance. Ça paraît bizarre, parce que c'est pas un mot qu'on utilisait avant dans la politique beaucoup, en dehors de moi. Il a commencé à parler de bienveillance, je me suis dit, tiens, il y a là peut-être quelque chose qui est intéressant. Alors vous avez prononcé le nom de Zemmour, on est nombreux ici à connaître Zemmour depuis longtemps, je vais vous dire ce que je n'aime pas. Passer sa vie à regarder ses voisins, les gens qui sont à l'école, sur la seule question de l'origine, de la religion, du prénom, t'as pas le bon prénom, et si je réussis, je prendrai une loi pour t'empêcher d'avoir ton prénom. Pour moi, c'est absolument le contraire du devoir qui est le nôtre comme Français. C'est exactement le contraire de la France.
Merci.
Parce que la France, ça n'est pas une race, ça n'est pas une origine, ça n'est pas une religion, c'est une adhésion.
Merci François Bayrou, on vous a bien entendu. à la semaine prochaine pour un nouveau Question politique. Merci à tous, on est en retard un petit peu. Merci Alexandre Gilardi, Jean-Philippe Ballas pour la préparation de cette émission. À bientôt.